Nous sommes en mai 2014, c'est l'épisode 16 de eTeachers, le podcast des profs numériques. On parle de sous-titres, d'e-learning, d'office en ligne, d'images libres droit, de créer des histoires en vidéo et de forums des enseignants innovants. C'est parti!
Bonsoir à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 16 de eTeachers. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir avec mon cher collègue Jeff. Comment vas-tu, Jeff ?
Bonsoir à tous. Très très bien. On a passé un bon week-end, donc tout va bien.
Bon, alors écoutez, on avait annoncé un invité ce soir, une invitée en l'occurrence, Yasmine de mémoire, c'est ça, Jeff, hein ?
Oui, de seriousgame.be, oui.
Qui devait venir donc nous parler de ces jeux sérieux, de ces serious games. Et bon, peut-être qu'il y a un petit quiproquo sur la date ou sur, techniquement, je ne sais pas, mais bon, elle n'est pas avec nous. Donc, c'est pas grave, on va improviser une petite émission. On a toujours deux, trois ressources dans nos chapeaux à vous proposer. Et puis, bon, peut-être que ça durera un petit peu moins longtemps, mais finalement, c'est pas très grave et nous essaierons de voir pourquoi elle n'est pas là. Si jamais vous êtes là, écoutez, vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas, Yasmine, à prendre l'émission en route éventuellement. Sinon, on trouvera un autre moment. Alors, un petit retour sur l'émission précédente, puisqu'on a eu encore plus de téléchargements, Jeff, c'est ça, si je crois bien.
Oui, on a eu un bon pic de téléchargements, je suis assez content, on nous a fait un 2-3 pubs sur 2-3 sites aussi. On peut remercier ta collègue, justement, qui nous a fait...
On va remercier Laurence, grâce à elle, on sait qu'on est écouté en Martinique, en France.
Voilà. Sur le site académique, je crois, de la Martinique, qui nous a fait un petit coup de pub assez sympathique, donc on la remercie.
Merci à toi Laurence et merci d'en parler et merci à vous tous d'en parler puisque d'émission en émission on a toujours des tweets supplémentaires et voilà. Bon, on va peut-être arrêter de meubler et de commencer.
Voilà. juste pour réagir en direct toujours le hashtag eTeachers donc tout accroché ou directement sur la vidéo sur YouTube, sur les commentaires YouTube. Voilà. Tout à fait.
Est-ce que je commence ?
Allez, vas-y.
Eh bien, du coup, je vais parler d'un outil, en fait, que j'ai découvert très, très, très récemment par une collègue qui s'occupe avec moi de l'association Cyberlang, qui s'appelle Aline Piazza. Je te salue au passage. Et elle nous propose un outil sur son Scoop.it. Elle nous propose, en fait, un outil qui permet de faire des sous-titrages rapides de vidéos. Alors, le problème avec les sous-titres aujourd'hui, quand on travaille en sous-titrage, donc c'est vrai qu'on peut penser... Bien évidemment aux langues, on peut penser à toutes les matières de sciences humaines où on aurait des films à réaliser, on souhaite faire apparaître des sous-titrages. Alors, on fait bien la différence entre le sous-titrage et l'ajout de titres ponctuels, puisque quand on ajoute des titres, il suffit de prendre n'importe quel logiciel de montage vidéo pour faire des titres ponctuels. Donc là, c'est vraiment quand même qu'on en a besoin de faire apparaître relativement rapidement des morceaux de texte, comme du sous-titre. Enfin, bon, tout le monde voit ce que c'est, bien évident. C'est pas évident, puisque souvent, il faut les réincruster, ou alors, il y a des techniques un peu particulières, il faut des logiciels particuliers, ou alors, il faut d'abord avoir un fichier de texte. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu ça, si certains parmi vous font des séries, regardent des séries sur Internet et prennent des fichiers de sous-titres, c'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre un fichier de sous-titres, c'est assez facile à comprendre, on a ce qu'on appelle un time code, donc en fait, comment on dira en français, dis donc, aide-moi, Jeff, un time code, c'est un repère de temps, en fait.
Ouais.
Voilà, un repère de temps, c'est-à-dire que vous marquez le début du sous-titre, le timing quand vous voulez que le sous-titre apparaisse, et vous faites ça pour chaque morceau de phrase. Donc, ça peut prendre énormément de temps, clairement, à sous-titrer tout un passage. Même si avec des élèves, on n'a pas forcément besoin de sous-titrer énormément. En tout cas, ça peut être long, puisque ça veut dire qu'il faut qu'il repère le temps. Enfin, c'est pas forcément très précis. Donc il existe un petit outil qui va vous permettre, alors a priori c'est à partir de vidéos YouTube, hébergées sur YouTube, mais bon si vous avez une vidéo il suffit de la mettre en ligne sur YouTube pour après utiliser cet outil. Je vais essayer de partager et de faire la démonstration en ligne et de l'expliquer en même temps pour ceux qui l'écoutent. Alors, partage l'écran, merci bien, Voilà.
Donc il faut tu vas sur YouTube directement ou non, non, tu vas sur le site, j'ai pas compris ça.
Alors, je vais vous expliquer ça. Je vous
Ah
avoue
voilà,
que,
d'accord.
comme c'est un petit peu improvisé, moi-même, je
Non,
n'ai
non,
pas
c'est
trop trop testé.
les préparer, on dit.
Voilà. Donc, en fait, ce site s'appelle Easy YouTube Caption Creator. Donc, on mettra le lien parce que c'est un outil qui est un peu long et c'est très compliqué. Je ne pourrais pas vous le dicter puisque c'est sur un site qui s'appelle Accessify. Donc c'est assez facile. Dans un premier temps, comme souvent dans ce style d'outil, vous allez copier-coller l'adresse. Vous allez copier l'adresse de la vidéo qui vous intéresse sur YouTube et la coller dans ce site. Donc je pense que vous voyez, là j'ai collé mon adresse, j'ai
Alors,
fait mon fait là.
je te coupe, on t'entend, mais on te voit plus.
C'est fait
Mais
avec ce
bon.
mais vous voyez ma page, non?
Non, non, non plus, non. Non. Tu dois avoir
Ah.
un problème de débit. Alors, essaie de commenter ça en audio. Ouais.
Et ben ouais, parce que pourtant moi je la vois bien, il la voit bien ma page qui s'affiche. Bon.
Non, j'ai. Bon, vas-y, vas-y, mec.
Bref, en tout cas,
Explique bien.
vous copiez-collez cette adresse dans le champ volontairement et vous passez à l'étape suivante. À l'étape suivante, on va vous demander tout simplement de mettre sur des lignes environ 10 mots par ligne, ce qui correspond, on va dire, en moyenne à des petits sous-titrages. C'est environ, hein, ça peut aller un peu plus loin, mais il ne faut pas aller plus. Ce que vous voulez voir apparaître au moment de la vidéo. Donc, je ne sais pas, je tape Hello, this is a comment from a teacher. On va rajouter une deuxième phrase. Bonjour.
Et t'aurais pas coupé ta vidéo, tout simplement, Guillaume?
Pardon?
T'aurais pas coupé ta vidéo, tout simplement?
Eh ben, j'en sais rien.
Ah, mais
Normalement,
ça y est, ça,
l'idée,
ça y est.
c'était
C'est revenu, ouais, tout à fait. C'est bon. C'est
Ouais, mais
bon,
c'est ma vidéo qui est revenue. Je voudrais. Tu vois mon écran?
ça y est, je te vois ton écran, ouais. Ouais. Non, je vois pas ton écran, je te vois toi, là. Bon, c'est pas très.
Ah,
Il nous écoute en audio, désolé.
désolé, hein.
Allez, remets ton écran. Voilà,
Et est-ce que
impeccable.
là tu vois mon écran?
Tout à fait, c'est bon, tu peux y aller.
Bien. Voilà, je suis à l'étape 2 où je suis en train de taper mes essais. C'est un essai de commentaire pour l'émission e-teacher. Très bien. Et puis je vais m'arrêter là. Mais vous pouvez en fait faire des lignes comme ça autant dont vous avez besoin. Et ensuite, quand vous arrivez sur cette page-là où normalement il va y avoir la vidéo qui apparaît, alors j'ai mis une vidéo d'un groupe que j'aime beaucoup, il vous suffit en fait d'appuyer sur A au moment où vous voulez que les lignes précédemment écrites apparaissent. Donc c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus précis et beaucoup moins contraignant que d'écrire tous les time codes de la chose. Donc on va faire un essai, on va faire play. Normalement, la vidéo va se lancer. Ce qui n'est pas le cas. On the right, to control this movie playback. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. Bon, en tout cas, ça devrait fonctionner. Et quand vous souhaitez, vous appuyez sur A et c'est censé, en fait, oui, d'accord, j'ai un petit souci
De connexion.
de débit chez moi là. Il ne veut pas lancer, mais logiquement, vous appuyez sur A et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a toutes les lignes donc qui sont en attente d'être incrustées. Et au moment où la vidéo défile, il suffit d'appuyer sur A pour incruster la vidéo. Donc en fait, ça incruste pas directement, je pense que ça, vous vous en doutez bien. Je vais repasser par là. Ça n'a pas marché, je suis déçu. Ça n'incruste pas directement. En fait, ça crée un fichier texte à côté qui automatise, qui met directement ces fameux time codes là, ces fameux timers. Et après, comme toute vidéo, tout fichier de sous-titres associé, vous pouvez le lire sur la vidéo ailleurs avec VLC et vous aurez votre sous-titre qui est associé à la vidéo. Je sais pas si j'étais bien clair, mais
Donc, si je résume, c'est pour faire du sous-titrage tout simplement de la vidéo. Hein. Tu tapes ton. C'est
voilà.
ça?
Mais en fait, l'avantage, c'est que enfin, encore une fois, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà essayé de faire du sous-titrage, mais c'est très très compliqué puisqu'il
C'est
faut.
très compliqué à caler, surtout, c'est ça?
Voilà, il faut
Ouais.
caler, puis éventuellement, il faut l'incruster après. Voilà, là, c'est on prend la
D'accord.
technologie avec les fichiers associés, les points SRT, les fichiers sous-titres, et
Ouais.
là, automatiquement, vous cliquez quand vous voulez que les textes précédemment écrits apparaissent. Voilà.
D'accord. D'accord. Et
Donc, on donnera le lien, ça s'appelle.
tout et quelle utilisation en classe tu
Ah bah, dans ma matière en anglais, enfin en langue en général, c'est assez intéressant puisqu'il arrive de nombreuses fois où soit on filme les élèves, soit on veut travailler à partir de vidéos déjà existantes et on a envie que les élèves fassent des commentaires, et pourquoi pas des commentaires écrits, donc un peu qu'ils apparaissent comme des sous-titres, ou alors au contraire, ça peut être rigolo des fois de faire du vrai sous-titrage mais en changeant, moi c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on a vraiment le document dans n'importe quelle langue finalement, peu importe, et le sous-titrage qui va avec en anglais, ça fait un exercice d'écriture, sauf qu'on change complètement le contenu, ça peut même être rigolo, enfin il existe plein de manières de l'utiliser, quoi. Voilà.
D'accord. Ok.
Voilà, Easy Caption Creator, Easy YouTube Caption Creator. On notera l'adresse dans les notes de l'émission. Voilà.
Ok.
As-tu quelque chose à dire, toi, Jeff ?
Ouais, bah moi je vais surfer un petit peu soit l'actualité ou sur des petites news. Je vais parler d'un petit, j'ai parlé PowerPoint. PowerPoint, que je présente plus, hein, l'outil de Microsoft pour faire de la présentation, qui a sorti une petite extension gratuite qui s'appelle Mix, M-I-X, qui permet en fait de transformer en PowerPoint en outil de e-learning, donc d'apprentissage à distance. Ok, pas spécialement au départ destiné au monde de l'enseignement, hein, qui peut être beaucoup sous le monde de l'entreprise au départ. Donc, il va pouvoir mettre tout un aspect interactif dans PowerPoint, de système de quiz. On va pouvoir enregistrer sa voix et même la vidéo de sa webcam, tout en présentant ses slides. Donc des questionnaires, des sondages, des interactions, des petits exercices, voilà, vraiment pour transformer PowerPoint tout en plateforme du learning. Hein. Voilà, alors je l'ai pas essayé moi.
Comment ça s'appelle, c'est faux. Tu peux nous le redonner.
Mix. Alors si vous le pouvez le trouver, M-I-X. Vous le trouvez sur mix.office.com.
J'avais utilisé déjà un truc comme ça où c'était pas mal, mais c'était plus de la présentation, c'est-à-dire qu'en fait on mettait en ligne le PowerPoint et du coup il était hébergé de manière, je pense, pas ponctuelle, mais en tout cas temporaire. On donnait ensuite une adresse internet aux personnes qui voulaient le consulter sur des tablettes, sur des ordinateurs, et du coup ils le suivaient en direct en fait. Ça évitait plutôt que de vidéos projetées par exemple dans des classes avec des tablettes. C'était pas mal en fait, ce qui fait que le prof. Celui qui est maître entre guillemets du PowerPoint, c'est lui qui déplace les slides, et en plus il pouvait demander des questions ponctuelles un petit peu de la même manière où les gens pouvaient interagir pour récupérer un sondage.
C'est vrai que ce PowerPoint, c'est quand même pas mal de petites extensions comme ça qui existent, hein. Alors Mix, elle est toute nouvelle, elle a l'air plutôt sympathique pour ensuite interagir avec les élèves, pour aussi partager après ce qu'on a fait. Ça, c'est pas mal, évaluer, tu vois. Donc, c'est pas mal. Il en existe pas mal. Il y en avait un, je sais pas si tu avais entendu parler. Alors, je me souviens plus du nom, il faudrait retrouver. C'était où les élèves pouvaient, avec leur souris, même interagir directement avec leur souris. Chaque élève avait une souris dans la main et à distance pouvait interagir avec les petites questions qu'on mettait dans PowerPoint. Tu as entendu parler de ça, non?
Ouais, ça dit quelque chose, ça. Ouais, ça
je me souviens plus du nom, par contre.
Moi non plus.
J'essaierai le truc, bon, je l'ai pas fait. Hein,
mais... Dis-moi, cet Office Mix là, c'est gratos ou pas?
C'est totalement gratuit, ouais. Totalement gratuit, ouais.
Enfin, totalement gratuit. C'est toujours pareil, il faut la licence pour répondre.
Ah, il faut pas répondre, mais l'extension est gratuite, ouais.
L'extension est gratuite. Bon, c'est plutôt intéressant comme application. Et du coup, toi, tu le vois comment? Quelle utilisation exactement?
Bah, je pense que c'est il faut préparer, c'est quand on a simplement un PowerPoint, comme beaucoup d'enseignants utilisent, je pense, hein, beaucoup d'enseignants utilisent PowerPoint. Je pense que rajouter des petits quiz au milieu, des petits jeux, des petites évals, ça peut être sympa. Ou alors, il peut avoir carrément la partie e-learning, d'accord? C'est-à-dire faire de style classe inversée, on pourrait balancer son PowerPoint avec toi en train de parler dessus, en train de souligner quelque chose, tu vois, voilà.
Ouais, tout à fait, ouais.
Deux usages différents, voilà.
Bon, bah écoute, belle découverte. Si jamais vous avez l'occasion de tester ce genre de choses, n'hésitez pas à nous en faire part.
Je vais rebondir sur quelque chose que je voulais parler depuis un moment aussi, c'est en parlant d'Office, on va rester dans le monde de Microsoft. Uh-huh. Il existe Office Online aussi. Alors, si vous connaissez bien les Google Docs, eh ben, c'est la même chose de chez Microsoft. Office Online, c'est tous les outils Microsoft gratuits. Voilà, il faut ouvrir un compte OneDrive, donc c'est anciennement SkyDrive, donc OneDrive, c'est le cloud de Microsoft. Une fois que vous avez un compte chez Microsoft, et même vous allez accéder au Word Online, au Excel Online, au PowerPoint Online, le Outlook même, Outlook, que j'ai jamais essayé, mais voilà, on va essayer, on va vraiment retrouver le Word Online ressemble vraiment, alors, comme deux gouttes d'eau.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait exactement comme Google avec.
Tout à fait. Regarde, je vais te faire voir le.
Tout est au même endroit. En fait, moi, je suis en train d'essayer. Là, je me connecte avec mon compte Hotmail.
Bah ben voilà. Absolument. Si, si tu arrives le balancer, parce que je ne me suis pas connecté là. Mais pour voir à quoi ça ressemble, vas-y.
On va regarder ça.
En fait, c'est le Google Doc de Microsoft, hein, on va dire. Hein, voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est tout online.
C'est
tout
bizarre comme présentation. Le Google Doc.
Ouais, mais c'est Google Doc quand même qui a fait au départ ce. Vas-y, je te bloque ton écran, voilà.
Voilà, je suis en ligne, ça y est.
Vas-y, lance un Word Online par exemple. Allez.
J'accède. Je dois pouvoir accéder à mes contacts à Outlook.com. Donc j'imagine que ce sont.
Lance un Word, tu vas voir comment il ressemble.
Mes emails. Comme ça, vous verrez mes emails, mais ça tombe très bien puisque ne me servant pas de cette boîte, je n'ai rien.
Donc, voilà. Reviens sur Word surtout. Voilà, tu vas voir comme c'est très bluffant. Vraiment, on retrouve le Word de bureau, quoi. Hein.
Complètement.
Donc, ça peut être très pratique. C'est gratuit. Voilà.
Je me demande quand même par rapport à tous ces outils dans le nuage là, puisque bon, en fait, c'est pas compliqué. Office a fait son outil dans le nuage, donc ça y est, il existe. Donc Drive, ce furent un peu les premiers à le faire ça. Apple a fait tout à fait pareil avec leur suite Office aussi, entre guillemets, leur suite de productivité qui est dans le nuage aussi maintenant sur iCloud. La performance de ces outils, je veux dire, est-ce que par exemple, on pourrait moi, quand j'ai fait mes études, que j'avais des mémoires à faire, ma maîtrise, elle faisait 250 pages. Est-ce que un outil de ce type pourrait gérer ce genre de production, par exemple, avec les sommaires automatiques, tout ça, quoi?
Moi, j'aurais envie de dire oui, hein. J'aurais envie de dire oui. Alors, moi, j'utilise beaucoup Google Doc, alors je le connais. Il est limité sur certaines choses, mais le Word, là, Word Online, que j'ai essayé deux fois rapidement, vraiment, on retrouve vraiment le Word de bureau, hein. Alors peut-être pas aussi puissant. Je te dis pas qu'il y aura toutes les options qu'on retrouve dans Word, etc. Mais
et est-ce qu'on peut partager simultanément comme Drive propose?
Oui, on peut travailler, enfin, du travail collaboratif aussi. Tout à fait. Ouais. Ça oui. Ça y a pas de problème.
C'est-à-dire que si.
T'imagines, même un Excel partagé, tu vois, ça peut être sympa. Donc voilà. Non, c'est vraiment, on retrouve tout l'aspect Google. Sauf qu'on retrouve nos petits, hein, puisqu'on est habitué, nous, au monde Microsoft.
T'envoyer un lien, est-ce que tu peux le modifier?
C'est vraiment. Tu m'as envoyé un lien. Allez, on va le faire ça en direct, alors, super. Non, c'est pas ça que tu m'as envoyé. C'est pas le premier.
C'est le deuxième.
C'est le deuxième, voilà. Alors, on essaie de faire ça en direct. Il a essayé. Ceci, c'est un essai. Tu m'as mis, hein, c'est ça? Voilà. Alors, je vais essayer de faire voir mon écran. Voilà. Ça va être le mien. Voilà.
Tu peux écrire?
Tout à fait. On va être. Attends, je suis en train de partager mon écran. Voilà. Là en fait, je dis à ceux qui nous écoutent, hein, on essaye de partager un document Word online. Pour faire du travail collaboratif, donc voilà. Et là, c'est parti, hein. Donc je peux écrire sans problème. Tu vois, et je vois que Guillaume modifie le document en direct. Ouais. Non, on retrouve vraiment, hein.
Invité.
Voilà, la mise en page, l'insertion, tu disais quoi, les numéros de page, ils doivent bien être quelque part. Non, on retrouve vraiment alors le basique, hein, on va pas faire des choses très. Si on cherche des choses un petit peu compliquées, parce qu'on ne trouvera pas, mais franchement, pour aller 90% de ce qu'on fait sur Word, ça suffit largement, quoi.
Ouais, c'est vrai que maintenant on est quand même vraiment. Enfin, moi, je m'en aperçois tout le temps au niveau de ma pratique, mais on est quand même de plus en plus à utiliser des outils en ligne et on n'utilise presque plus rien dans le local. Enfin, moi, je prépare tous mes cours maintenant sur des documents en ligne aussi. Quand j'ai juste besoin de marquer des notes, prendre des notes, des petites choses, je ne suis plus du tout sur des logiciels en dur, quoi. Alors bon, je sais pas quel risque cela peut avoir ou bon. En tout cas, c'est plutôt pas mal.
Bah, c'est bien, non, c'est plutôt bien fait. Et puis, on se demande même pour comment aller prendre une licence, tu vois. C'est la question que je me pose, quoi. Hein, voilà.
Exactement. Bon, moi, je ne prends plus de licence. Hein. J'utilise LibreOffice maintenant quand j'ai vraiment besoin d'installer
Dans les établissements. Alors, je ne sais pas ceux qui nous écoutent comment c'est, mais je sais que les établissements qu'on fréquente, on est encore certains à vouloir acheter des licences Office. Hein. On se bat un petit peu contre ça. Hein.
Oh, de moins en moins quand même, non ?
Tu crois ?
Peut-être pour certains personnels administratifs qui sont...
Voilà,
qui,
par exemple.
Au niveau de nos pratiques même, puis je crois que moi, en tant que formateur, je reconnais que maintenant, je suis tout le temps à expliquer, je ne parle même plus des produits Office en formation, puisque par définition, ils ne sont pas installés dans les établissements. Donc, il faut arriver... Par contre, oui, je reconnais que je parle de certains outils en ligne gratuits, mais comme alternative, mais en tout cas, pas plus que ça, quoi.
D'accord. Bon.
Voilà, ben écoutez, très bonne.
Tu vois, j'ai fait une bonne série Microsoft là. Voilà.
Très bien.
Je te rassure, je ne touche rien pour ça.
J'espère bien, sinon je ne vais plus parler, tu me connais. Pour terminer en ce qui me concerne,
vas-y.
Mes outils du jour, je vais vous parler d'un petit site qui propose en fait des photos. Alors on va rester un peu dans le contexte des droits, puisque. En tant qu'enseignant, on a souvent besoin de chercher des illustrations. Alors bon, je pense aux enseignants de langue, je pense aux enseignants de sciences humaines encore, hein, bien sûr de d'histoire, géographie et toutes les sciences humaines en général, peut-être de sciences aussi, mais bon, c'est peut-être un petit peu moins vrai. On a de trouver des illustrations. Et voilà, on a tous tendance malheureusement à faire chercher quelques mots-clés sur Internet et chercher des images sans trop se préoccuper, des droits qui y sont liés. J'avais déjà parlé peut-être du fameux site Flickr que certains connaissent où il y a des photos et quand on travaille dans Flickr, on peut faire des recherches qui associent ce qu'on appelle les recherches avec la licence Creative Commons, mal prononcé Creative Commons, qui est une licence libre qui permet une exploitation des photos de manière gratuite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas citer leurs sources, bien évidemment. Et ben voilà, là, il existe ce site. Plusieurs sites font la même chose, mais j'aime bien celui-ci, qui s'appelle StockVault, StockVault, et qui propose directement des photos en accès libre, libre de droit, et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. C'est un site de recherche de photos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche, Jeff.
Des chats, c'est la mode en ce moment.
Des chats. Je conseille toujours de faire des recherches en anglais, ça donne quand même un petit peu plus de
résultats. Ah, ça se dit 4, je préfère te le dire.
Merci Jeff, j'ai trouvé. T'es sûr ?
Moi j'en suis sûr. Hein.
Et voilà, effectivement, on tombe sur des tigres, c'est bien. On tombe sur différentes photos qui sont tout à fait accessibles. Bon, il ne faudra peut-être pas chercher la grande, grande qualité, mais en tout cas, ça mérite d'exister. Et voilà, peut-être sur différentes photos d'Angleterre, England. Voilà, moi j'en ai là qui sont à disposition directement et qui sont.
Oui, il en existe plusieurs des sites comme ça hein, qui font du.
Il en existe beaucoup, ouais, tout beaucoup, à fait.
Ouais.
Il en existe beaucoup.
Après, c'est quand même des formats intéressants. Je vois qu'il y a quand même des qualités qu'on trouve pas peut-être sur un Google Images, etc. Hein.
En fait, d'après ce que je comprends, c'est que c'est presque une sorte de base de données, parce que toutes les photos ne sont pas hébergées directement sur StockVault. Il y en a certaines, comme là, c'est le cas pour Big Ben, qu'on voit en ce moment même, mais celle où j'étais avant, ça m'a amené sur un autre site de partage de photos, mais avec une licence libre. Donc, je pense qu'il y a cette volonté aussi de rassembler un petit peu toutes les ressources, quoi. Voilà.
D'accord.
Je trouve que c'est pas mal d'avoir maintenant un peu cette conscience-là, sans parler de, oui, voilà, de penser que quand on utilise des ressources qui sont pas extraites de manuels ou que l'on possède, bien évidemment, en établissement, d'essayer de faire en sorte d'utiliser des ressources qui soient libres de droit ou au moins qu'on cite les sources, avoir un respect par rapport à ça et aux auteurs qui les font, quoi, tout simplement.
Ça, c'est vrai que sur les sources, je sais qu'en collège, c'est quelque chose qu'on apprend aux élèves, au moins. Voilà.
Ah bah bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a toujours eu, avant le numérique, qu'on pensait toujours à citer des extraits de livres, même en études supérieures, bien sûr, on ne se voyait pas faire de recherche ou de travail, un peu d'analyse sans citer les sources avec la fameuse bibliographie. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce de dérive qui fait qu'avec l'arrivée du numérique à foison, comme si on n'avait plus besoin de se déplacer à la bibliothèque finalement, qu'on avait tout accès. On avait plus besoin. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, bien évidemment, c'est pas le cas, mais on le ressent un peu. Et pour avoir aussi quelques amis qui travaillent dans le supérieur et qui corrigent beaucoup de débuts de travaux de recherche, en tout cas, même si modestes, mais en tout cas qui travaillent dans ces domaines-là, ils sont de plus en plus amenés à voir qu'effectivement, les étudiants s'approprient complètement ou alors pensent qu'en changeant une phrase ou deux ou en coupant une partie d'une photo trouvée sur Internet ou quoi que ce soit,
c'est
on a
des,
plus besoin
c'est
de...
C'est un des gros problèmes en université. Le plagiat, en fait, hein, tu parles, c'est ça?
Une sorte de plagiat ou alors, mais même de plagiat qui est censé être déguisé ou en tout cas parce qu'on pense qu'on modifie un petit peu,
quand
on s'approprie quelque chose, du coup, il devient le nôtre, en fait. Et je trouve que voilà, c'est aussi valable pour nous en tant qu'enseignants, quand on utilise des ressources, faire en sorte d'avoir l'honnêteté intellectuelle de les citer au moins quand c'est issu de quelque chose. Quoi. Voilà.
Tout à fait. Au moins d'avoir le réflexe, au moins déjà. Parce que je pense qu'il y a aussi.
Et puis encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de disciplines numériques et pour nos élèves. Voilà, voilà.
Bon. J'ai deux petites choses, moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai sur l'actualité,
allez,
sur le forum des enseignants innovants, ou alors un petit outil iPad qui plaira bien aux enseignants de primaire, je pense. Dis-moi, on fait les deux, hein, si tu veux.
Si, vas-y.
Allez, on parle l'outil iPad pour commencer, on finira sur l'actualité. L'outil iPad, il s'appelle, qui est fait par la société Adobe ou Adobe, je ne sais jamais comment... Je sais jamais comment ça se prononce. Adobe, tu dis ça? Ouais. Alors, on va essayer de partager l'écran aussi. Il s'appelle donc Adobe Voice. Pourquoi je dis les enseignements primaires? Ça pourrait être très bien pour le collège-lycée, mais c'est un truc très simple. C'est finalement, on va pouvoir faire des petites vidéos d'animation, d'accord, très rapides, à partir de photos, à partir de petites icônes. On va pouvoir s'enregistrer, d'accord, là, enregistrer sa voix, tout simplement en cliquant, en tapant dessus. On va enregistrer sa voix par rapport à la photo. Et photo après photo, on va pouvoir enregistrer sa voix. Et tout va s'animer par magie, d'accord. On est vraiment, hein, si je vais sur le site d'Adobe, alors je ne sais pas si vous verrez la vidéo, je ne sais pas si la vidéo tu la vois, ouais, elle tourne.
Attends, c'est bon, oui, je la vois, bien sûr.
Ouais, voilà. Donc c'est vraiment très simple, c'est vraiment simple d'emploi. C'est pour ça que je dis, j'ai vu beaucoup d'enseignants de primaire l'utiliser, et même les premières années de primaire, quoi. Donc ouais. Voilà. Adobe ou Adobe Voice, d'accord, très simple, on peut rajouter du texte, on peut s'enregistrer rapidement sur chaque image, on peut importer nos propres images, et totalement gratuit.
Et ça n'existe que sur
ça n'existe que sur iPad, ouais, ça n'existe que sur iPad.
C'est rigolo, parce que pourtant, ils n'étaient pas bien copains.
Non, c'est vrai qu'en plus, c'est une marque qui développe des choses sur Android, hein, mais c'est pour l'instant que sur iPad, et j'ai pas eu d'infos là-dessus sur...
Bon, cela dit, je suis à peu près persuadé qu'il existe le même outil ou similaire sur Android. Peut-être pas aussi bien fait, mais il me semble bien que ça me dit quelque chose. À vérifier.
C'est une rapidité folle, quoi. Hein. Quand on monte, je sais pas, sur un logiciel comme iMovie, par exemple, il faut quand même plus de temps, un peu plus de dextérité, il y a une timeline à gérer. Là, c'est vraiment du pas après pas, c'est animé tout seul, c'est vraiment, enfin, un truc rapide, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Voilà.
Intéressant pour des petites tâches finales, des petites productions finales de nos élèves. Je pense qu'en langue, il y aurait un certain nombre de...
J'ai trouvé ça, ouais, sur, je sais plus, c'est un compte Twitter d'un enseignement en primaire, je me souviens plus de son nom, qui a comme ça
découvert ça. Oui, pour écrire des histoires, effectivement, je sais que ça, c'est plutôt intéressant, pas mal foutu.
Voilà, je finis par ma petite dernière info. Il y avait le forum des enseignants innovants, tu sais, c'est chaque année organisé par le Café Pédagogique, je crois.
Oui.
Et le palmarès est sorti, donc le palmarès vous le trouvez sur le Café Pédagogique. Il y a eu 4 prix décernés par le public et toujours 9 prix par un jury. Alors, si vous voulez être intéressé d'aller le voir, donc si je peux voir le prix des enseignants innovants est arrivé par exemple à Stéphanie Fontecaba pour Rando Philo. Tu vois, une randonnée philosophie avec ses élèves de CECM, si j'en veux en citer un. Et voilà, on pourra peut-être en parler plus en détail. Il y a notre ami François Jourde qui était aussi dans les...
François qu'on avait reçu donc en émission et qu'on va réinviter. Alors, je ne sais pas si ce sera sur cette saison, mais peut-être l'année prochaine en tout cas, l'année scolaire prochaine.
Voilà, qui nous a rapporté un grand prix du numérique, tu vois. Voilà, des choses en EPS aussi qu'on a vu. Ce serait intéressant aussi ça de voir un peu ce qu'on peut faire en EPS avec le numérique. Hein. C'est quelque chose qui... qui pourrait être super intéressant. S'il y a quelqu'un dans nos auditeurs, on serait plutôt
intéressé.
Voilà. Voilà. Enfin voilà. Si vous êtes curieux d'aller voir ça, donc 5e forum des sciences et innovants, vous avez le palmarès qui est sur le café pédagogique. Voilà.
Eh bien, nous irons à l'occasion.
Nous irons et on essaiera d'un peu décortiquer ça un peu plus en détail.
Bon, bah en tout cas, écoutez, cette émission touche à sa fin. On s'excuse pour... Jeff, on voit tout ton écran encore, là, hein, c'est pas grave?
Ah, pardon.
Pardon, je peux... On s'excuse encore pour cette émission un peu improvisée, puisque, comme vous l'avez compris, on aurait dû avoir une invitée, mais bon, nous allons éclaircir ce mystère très mystérieux.
Voilà, on essaiera de recontacter... Yasmine, et pour voir si on peut faire ça ultérieurement.
Voilà. Merci à tous.
Toujours, on finit juste par pour nous contacter, toujours sur e-teachers.fr, donc e-teachers.fr, notre chaîne YouTube aussi, hein, vous tapez e-teachers, vous trouvez, iTunes toujours, Facebook, notre communauté Google+, et s'il y en a qui aiment le mail, c'est e-teachersfr@gmail.com, e-teachersfr tout accroché.
Voilà. Et... voilà, merci.
Allez.
Merci à tous, bonne soirée. Okay. Au revoir.